L'enregistrement. Merci à tous d'être présents. Merci au public également d'assister à cette séance du conseil municipal. Merci également à Jacques Irafou du Dauphiné Libéré pour sa présence à nos côtés. Je désigne un secrétaire de séance en la personne. Il a tellement bien fait la dernière fois que je ne peux pas renoncer à te confier cette tâche. Pierre, merci d'être le secrétaire de séance à nouveau. Je voudrais également souhaiter la bienvenue, même s'il est absent ce soir, à Mathieu Teston, qui on installe officiellement Mathieu Teston suite à la démission de Madame Bretons. Donc, bienvenue à Mathieu. On l'a déjà vu hein, dans nos réunions de groupe de travail. Donc Mathieu, j'en suis certain, sera impliqué au sein de la mairie et du conseil municipal. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Je tiens à préciser, dans l'ordre du jour, j'ai demandé à ce que tous les ordres du jour, on fasse figurer une phrase qui concerne le conflit d'intérêts. Je me permets de vous la lire. Je vous précise que lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat, pardon, et le vote. Bon, tout simplement, si par exemple on vote une subvention pour une association que vous êtes adhérent à cette association, je vous conseille, c'est préférable, de vous mettre en dehors du débat et de ne pas prendre part au vote. Ça sera consigné dans le procès-verbal. Pourquoi cette nouveauté? Simplement, j'ai assisté à une information sur justement les enjeux du conflit d'intérêts et la responsabilité civile des maires et on nous a fait part de cette disposition. Je pense que ce n'est pas compliqué à faire avant chaque délégation si vous sentez que vous êtes eh ben, en conflit d'intérêts ou en difficulté par rapport à une délibération qui pourrait vous concerner. Voilà, donc simplement, je voulais juste préciser ce point-là et n'hésitez pas à nous le faire savoir, on le consignera donc dans le procès-verbal. Pour ce soir, j'ai reçu trois pouvoirs de vote. Donc, Marie-Odile Roux-Guigon qui donne pouvoir à Jérôme Mercoirolle. Sarah Marion qui donne pouvoir à Sonia Lucas et Mathieu Teston qui donne pouvoir à Jonas Mouden. Vous avez dû tous prendre connaissance du PV, donc du procès-verbal du conseil municipal du 9 juin. Avez-vous des remarques, des observations à formuler? J'ai dit quoi?
Juin.
Pardon. Avril. Oui. Ok. Très bien. Merci. Oui, Pierre.
Je prends à mon compte, effectivement, c'est en plus c'est moi qui vais prendre. Je n'ai pas voulu être exhaustif, mais je ferai une phrase de rappel dans le compte-rendu d'aujourd'hui pour faire remonter une observation.
Il y a une autre solution. On peut aussi, en fonction de votre remarque, modifier le PV et vous le refaire passer. Et vous nous répondez en disant c'est bon et on l'approuve de cette façon-là.
Vous avez proposé là, c'est bien.
Je mets une note.
Ok. Très bien.
Une autre question, est-ce que ça pose problème si je sois le secrétaire en fonction de cette remarque?
Non. Il n'y a pas
Bon, merci. Je vais maintenant passer à la lecture de l'ordre du jour. Donc, on a une délibération concernant l'installation de la commission communale des impôts directs, la fameuse CCID. Une délibération pour déterminer le nombre de membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, donc le CCAS. Ensuite, il faudra passer à l'élection des représentants du CCAS, donc à travers une délibération. On a deux délibérations qui concernent le recrutement d'agents. Donc une première délibération qui concerne donc le recrutement d'agents non titulaires pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier. Une deuxième délibération qui concerne le recrutement d'agents contractuels de remplacement d'agents indisponibles. Et une délibération qui concerne la création d'un emploi permanent ouvert aux fonctionnaires. Une autre délibération qui concerne l'approbation de la modification apportée au règlement intérieur de la piscine municipale. Et enfin, une dernière délibération qui concerne l'attribution de deux subventions, une aux jeunes agriculteurs et une autre à l'école primaire publique. Pierre, c'est toi qui as l'honneur d'ouvrir les débats concernant la première délibération.
Donc c'est la délibération numéro 2026-34 qui concerne l'installation de la commission communale des impôts directs. En fait, on va faire une proposition qu'on soumet aux services fiscaux et donc aux services préfectoraux qui vont la valider ou pas. En tout cas, c'est une commission qui doit se réunir toutes les années et qui passe en revue un certain nombre de situations de biens, que ce soit des biens bâtis ou non bâtis, pour voir s'il y a beaucoup de changements, si c'est toujours conforme à l'actualité de ce qu'on connaît de ce bien. Et c'est une façon de rendre les impôts locaux le plus équitable possible. C'est-à-dire à la fois qu'ils ne soient pas sous-évalués ou qu'ils ne soient pas surévalués. Et en sachant que les modifications que propose la CCID, c'est-à-dire les gens qui feront partie de cette commission, ces propositions, elles repassent quand même sous le contrôle des services fiscaux qui acceptent ou pas les modifications. Et en sachant que ces modifications sont toujours très à la marge, on ne peut pas totalement surclasser ou totalement déclasser un bien. Et on essaie d'être le plus rigoureux possible, et en tout cas avec la volonté d'être le plus juste possible. Et voilà, ces propositions ne sont pas toujours suivies par les services fiscaux. En tout cas, ça vaut le coup, à la fois pour les ressources de la commune, d'être le plus juste possible, et à la fois pour l'équité entre les habitants, d'être aussi dans ce même souci de vérité des informations et de véracité de ce qu'on affirme. Voilà. Donc c'est une liste. Alors il faut composer la liste en fonction des propriétés bâties, non bâties et des résidences secondaires. Donc peut-être dans l'assistance et dans le conseil, il y en a qui seront surpris d'être. C'est un peu comme au César, hein, on est choisi par avance, et puis après, les services de l'État font leur choix ensuite. J'ai résumé le combien. En tout cas, il est important qu'on renouvelle cette commission-là. Donc, vu les élections municipales du 15 mars 2026, vu le renouvellement du conseil municipal, Monsieur le maire rappelle que l'article 1650 du Code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. Le maire expose que dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants. Il précise que la durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans au moins, jouir de leurs droits civils et être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, un agent communal peut être présent pour assurer le fonctionnement de la commission sans voix délibérative. pour la commune d'Alba, Marie-Laure Bouvier assiste parfois, nous accompagne dans ce travail-là. Monsieur le maire indique que la nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les 2 mois qui suivent le renouvellement des conseillers municipaux. Il demande donc au conseil de désigner les commissaires qui seront proposés au directeur des services fiscaux. Le conseil municipal dresse la liste des 24 commissaires proposés au directeur des services fiscaux pour siéger à la commission communale des impôts directs, comme suit. Il y a un petit E en trop, comme suit. Donc il y a une colonne, la colonne de gauche, qui propose des commissaires titulaires, et la colonne de droite qui propose des commissaires suppléants. Donc avec les trois catégories que j'ai évoquées, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. Oui, pour moi il y a une erreur. On va voir, hein, je vous décline. Donc les commissaires titulaires pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, Bernard Sauvadon, Buisson Josette, vous entendez monsieur et madame à chaque fois, hein, je veux pas le. Pavio Annette pour les suppléants et De Seine Jean. Pour la taxe foncier bâti, Marion Sarah, Prévost Michel, Arlot Marie-Françoise, Varenne Sylvain, Sévenier Jacques, Bustin Jean-Jacques. Pour les suppléants Mouneau, Julien, nous on avait, sauf erreur de ma part, c'était Jocelyn à la place de Delaveau Caroline.
Oui, mais il y a une explication si tu descends un peu plus, Michel. On doit avoir 24 noms. Je ne peux pas mettre et Jocelyn après et Jocelyn de l'autre côté. Donc je m'en suis expliqué avec Jocelyn.
Okay.
Et donc de toute façon, Pierre, si tu permets, les commissions, on analyse tout ce qui nous est remonté. Il n'y a pas de différence entre le foncier bâti, le foncier non bâti et les taxes, la TH sur les résidences secondaires. La commission, elle traite les trois sujets. Donc, de toute façon, les 12 qui seront désignés assisteront à la totalité des dossiers soumis.
Voilà. Donc, je reprends la liste des suppléants pour le foncier bâti. Donc, Mouneau Julien, Delaveau Caroline, Martinez Morissette, Mercourt Jérôme, Lénon Catherine et Sonia Lucas. Dans la catégorie taxes foncier non bâti, les titulaires Osas Jean-Marc, Bailly Sébastien, Gauthier Jocelyn et Lolanier Pierre. Et les suppléants Vincent Patrick, Riffard Nicolas, Gognot Jean-Charles, Gadet Gilles. En cas d'empêchement, le maire président de la CCID sera remplacé par la première adjointe Carole Thomas. Est-ce que vous avez des questions ?
Et comment ils sont désignés ?
Pardon ?
Comment est-ce que vous avez désigné les 12 titulaires ?
C'est un choix un peu délicat parce qu'il faut que la catégorie dans laquelle on les a désignés, il faut que ça corresponde à, par exemple, les résidences secondaires. Il faut forcément que ce soit à la résidence secondaire. C'est poser la question, par exemple, pour toi, il faut être officiellement propriétaire du bien. Bon, il y a ces critères-là qu'on a regardés et essayer d'être. Répartir les gens de façon équitable. C'est ce qui nous a guidés. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y a pas d'autres questions pour vous ? Je vais soumettre donc cette délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous remercie.
Je vais vous présenter donc les deux délibérations qui concernent cette fois le CCAS. Donc la délibération numéro 35, donc qui concerne la détermination du nombre de membres
du conseil d'administration, donc du CCS. Donc, vu le renouvellement du conseil municipal le 15 mars 2026, lors du premier tour des élections municipales, vu l'installation du conseil municipal, élection du maire et des adjoints le 21 mars 2026, le maire expose au conseil municipal qu'en application de l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale est fixé par le conseil municipal. Il précise que les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du Centre d'action sociale. Il n'est pas fixé de nombre minimum de membres du CCAS. Toutefois, quatre catégories d'associations devant obligatoirement faire partie du conseil d'administration, il est possible d'en déduire que ce nombre ne peut être inférieur à 4 membres nommés et 4 membres élus, soit 8 membres en plus du maire qui est président de droit. Donc je vous propose, on a donc lors d'une réunion de travail tous ensemble, on a donc d'un commun accord décidé de fixer donc à 8 le nombre de membres du conseil d'administration. Je vous propose, d'après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer à 8 le nombre des membres du conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. Charge le maire de réaliser toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente décision. Avez-vous des questions ? Très bien. Je propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, la prochaine délibération, on va passer donc à l'élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCS. Donc, en application des articles R123-8 et suivant du Code de l'action sociale et des familles, le maire expose que la moitié des membres du conseil d'administration du CCS sont élus par le conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète. Les sièges sont attribués et d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. Le maire précise que chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de fois où le quotient électoral est contenu en nombre entier dans le nombre de voix qu'elle a recueillies. Le quotient électoral est calculé en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant obtenu les plus grands restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour l'attribution des sièges au quotient. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste. Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restants à pourvoir reviennent à la liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrage, le siège revient au candidat le plus âgé. Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont pour les autres listes. Le vote a lieu au scrutin secret, sans dérogation possible. Le maire rappelle qu'il est le président de droit du CCS et qu'il ne peut être élu sur une liste. Enfin, le maire rappelle que le conseil municipal a fixé, par délibération 2026-35, donc la précédente, en date du 6 mai 2026, à 8, le nombre de membres du conseil d'administration du CCS, soit 4 membres élus par le conseil municipal et 4 membres nommés par le maire, parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles. Donc vous l'avez compris, on va devoir voter donc à bulletin secret dans la pièce à côté. Donc on va positionner l'urne sur la table. Je propose de nommer deux assesseurs, Jonas si vous voulez bien, ou Jocelyn, hein, comme vous voulez. Et puis, je ne sais pas, Sophie, tu peux bien ? Voilà. Alors, je précise que, également en réunion de travail, tous ensemble, nous avons décidé de ne faire qu'une seule liste qui représente l'ensemble du conseil municipal. Donc, autant des élus de la majorité. Donc, dans cette liste, il y a des élus de la majorité et des élus de la minorité. Et donc, tout ce que je vous ai lu précédemment, qui peut paraître un peu imbuvable ne s'appliquera pas puisqu'on a fait donc une liste commune. Voilà, je tenais quand même à préciser ça et à remercier cette solution qui simplifie quand même beaucoup les choses. Je propose d'appeler les uns derrière les autres. Alors, derrière, vous aurez des bulletins blancs, des bulletins, alors ils ne sont pas pré-remplis, mais avec des lignes. Il y a un stylo, il y a des enveloppes, vous remplissez le bulletin, vous avez la liste des candidats également. Donc, vous devez écrire les noms de la liste présentée, si cela vous convient. Vous revenez ici dans la pièce et mettez l'enveloppe dans l'urne, et quand tout le monde aura voté, on procédera au dépouillement. Voilà, ceux qui ont des procurations votent deux fois. Voilà, Jonas, je vous laisse commencer, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est le service technique et le service scolaire. Ouais. C'est les gens postales. C'est obligatoire. Ça. Sophie. Peut-être quand il vient voter, peut-être tourne, actionner l'urne, s'il te plaît. Ouais. Merci. Donc Jonas et Mathieu Teston ont voté. Élodie, je vais faire dans l'ordre après, ça sera plus. J'oublierai personne. Jocelyn, toi. Jonas, c'est bon, vous nous laissez jouer. Ouais, très bien.
Il y a un X à gauche. C'est le point de suivre.
C'est dans les noms de la CCD.
La première délibération.
Merci Jocelyn. Sylvain.
Ah, la culotte pince.
Caro. Tout le monde a signé ?
Oui, tout est prêt. Il y a deux feuilles.
Oui, mais c'est bon, il y a deux.
Thank you.
dernier moment. Si vous avez quelqu'un, tu ne veux pas.
Non, non, mais ça, parce que nous, tu sais, la Concom, elle prend en charge la destruction des vitres.
D'accord.
Donc, il ne faut pas choisir cette solution. Okay. En tout cas, pour prendre.
Ok, bon,
bah, moi, on fera un article dessus, parce qu'en plus, là, il y a le gouvernement qui vient de lâcher 2 millions pour. Problème éthique, mais on essaiera de faire un article dans l'album. Donc je le redis à Sophie aussi. Enfin, c'est de la poudre.
Oui.
C'est 2 millions. Ouais,
c'est fait, toi, il distribue ça.
Tu fais 2 millions, tu dois pas aller bien.
C'est des petits bouchons comme ça.
Ah ouais. Il
distribue ça.
Ça marche. Hein.
On en a pas vraiment,
ça. Ah ouais, ouais.
Mais c'est sur une bouteille.
Mais
tu mets
la
pierre et...
Ah oui, c'est pas idiot ça. Sophie, t'as voté ?
Donc c'est maintenant que j'étais là.
regarder. Je retrouve pas avec qui je vote. C'est qui ça? Très bien.
Merci.
Le petit fils qui s'est cassé le coude.
Ah, le coude ?
Ouais, opération.
Ah ouais, ah, c'est chiant, mais. Du coup, c'est.
Ça, c'est à l'hôpital.
Ouais. C'est quoi, un gars et deux filles ?
Ça a l'air d'être
compliqué. Ah bon ? Ah ouais ? Et ça l'est né ?
Pourquoi je ne retrouve pas.
Ça, c'est la dernière. Elle a quel âge?
Elle est de décembre, mi-décembre.
Décembre
2025.
Ouais. Elle fait bien grande. Oui. C'est son sœur.
Ouais, c'est ça, c'est la 45.
Ah oui, décembre, elle se met déjà à plat ventre.
Ouais, elle se retourne.
Elle marchait
pas. Oui, c'est à qui la problème? Sophie, elle est c'est fait, ouais.
Sonia, et moi, je pense. Tiens, tu es retournée ou pas?
Oui, je suis
Thank you.
reprises. Boisa Lolani Marion Gauthier Alou. Attention, Bala, Lolani, Sarah Marion, Jocelyn Gauthier, Sophie Alléou. Je ne vais pas faire tous les noms.
Non.
Liste entière. Attention, gros suspense, liste entière. La même chose, liste entière. Attention, liste entière encore. Attention, le suspense est à son comble, liste entière. Là, on n'est pas sûr. Liste entière. Attention, les trois derniers, liste entière. Et on ne sait pas, attention. Balavoisa, Pierre Lolanier, Sarah Marion, Jocelyn Gauthier et Sophie Alléou.
Merci à vous, merci à tous pour donc cette élection. Donc sont élus Balavoisa, Pierre Lolanier, Sarah Marion, Jocelyn Gauthier et Sophie Alléou en tant que suppléante. Je vous propose. Merci Jonas. Donc cette liste ayant obtenu 19 suffrages, donc je le redis, ont été proclamés Balavoisa, Pierre Lolanier, Sarah Marion, Jocelyn Gauthier, Sophie Alléou, donc comme membre du conseil d'administration du CCAS. Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Je précise que nous ferons appel au service de Manon Fargier qui s'est proposé comme bénévole pour participer aux travaux de cette commission. Merci Manon. Du CCAS.
Pour toutes les délibérations. Oui, en fait, c'est effectivement sur le site internet de la commune, il manque les délibérations 2025 et 2026. Donc,
je le note et puis on.
Tu les as?
C'est vu avec Marie-Laure et parfait. Parfait.
Ça va être celui-ci.
Ok. La délibération suivante concerne le recrutement d'un agent non titulaire pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier. Madame la première adjointe responsable des ressources humaines, je vous laisse la parole.
Merci. Donc, la délibération 2026-37, recrutement d'un agent non titulaire pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier, donc dans le cadre d'un surcroît d'activité. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-29, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relative aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, puis pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, au terme de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifié, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat pendant une même période de 18 mois consécutifs. Ou bien un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat pendant une période de 12 mois consécutifs. Dans ce cadre, le maire propose d'approuver la création d'un emploi, des emplois nécessaires au bon fonctionnement des activités municipales suivantes. Donc, pour surcroît de travail dans les domaines de l'entretien, des espaces verts, de la voirie, de la manutention, de l'accueil du public et du service périscolaire et scolaire, donc des adjoints techniques territoriales d'échelon 1, pour une période du 1er janvier au 31 décembre, et il y a 12 emplois actuels dans ce cadre. Pour un surcroît de travail dans les services administratifs, pour un adjoint administratif territorial échelon 1, du 1er janvier au 31 décembre, et il y a 5 emplois actuels. Remplacement d'un poste pour la poste, adjoint administratif principal de deuxième classe échelon 1, du 1er janvier au 31 décembre, et là il y a une seule personne, un maître nageur sauveteur, éducateur territorial APS échelon 9, du 1er juin au 30 septembre, et là aussi il y a seulement un. Le nombre d'emplois créés correspond à un nombre maximum d'agents rémunérés sur une période donnée. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à recruter des agents non titulaires pour un besoin occasionnel ou saisonnier dans les conditions susmentionnées à compter du 11 mai 2026. Précise que les crédits nécessaires seront prévus au budget et donne pouvoir au maire pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je ne sais pas si vous avez la question.
Je précise qu'on prendra une seule fois cette délibération pour tout le mandat. C'est obligatoire de le faire en début de mandat. Mais voilà, on ne la prendra qu'une seule fois au cours de ce mandat. Pardon ? Oui, mais de chaque année ? Non, de chaque année ? En fait, non. Pour tout le mandat, c'est fait pour tout le mandat. Pour le moment, actuellement, il y a 12 postes. Pour le moment, il y a 12 postes au service technique et au service scolaire. Il y a 5 postes au service administratif. C'est simplement pour préciser les choses. À l'agence postale communale, il y a un poste. Et le maître nageur, il y a un poste.
Il n'y a pas d'année à la fin.
Ce sont éventuellement pour les futurs embauches, les emplois aidés. Est-ce qu'il y a des aides ?
Il n'y a plus d'aide, Jocelyn. Ça c'est fini, ça. C'est disparu.
Il n'y a pas d'aide. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je mets cette délibération au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Adopté à l'unanimité. Donc, je vais vous présenter ensuite la délibération suivante, la 2026-38. Donc, qui porte sur le recrutement d'agents contractuels de remplacement d'agents indisponibles. Donc ça, c'est pour cause de maladie. C'est plus pour surcroît d'activité, mais pour maladie. Donc, vu la loi du numéro 86-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment l'article 3-1, considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou d'agents contractuels indisponibles, Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise M. le maire, pendant la durée de son mandat, à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels, notamment indisponibles. Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. Précise que les crédits budgétaires correspondants seront inscrits au budget. Donne pouvoir au maire pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc, comme la précédente, on en prendra une pour toute la mandature.
Est-ce que je peux me permettre, ces deux délibérations se chevauchent en fait ?
C'est pas le même objet.
C'est pas la même chose, mais elles sont pas très éloignées. Oui, je suis assez d'accord avec vous.
C'est au plan.
Oui, tout à fait. Si tu veux, c'est fait pour, quand on a un cas d'urgence, de nous permettre de recruter sans avoir à repasser par un conseil municipal à valider.
Donc, je mets cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, la suivante, ce sera la délibération 2026-39, et dont l'objet, c'est la création d'un emploi permanent ouvert aux fonctionnaires et, le cas échéant, aux agents contractuels sur le fondement des articles L332-14 et L332-8 du Code général de la fonction publique pour le service scolaire, périscolaire et restauration collective. Vu le Code général de la fonction publique, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Considérant qu'il appartient à l'Assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, d'en déterminer le temps de travail, de préciser le ou les grades des fonctionnaires susceptibles d'occuper des emplois et d'indiquer si ces derniers peuvent être occupés par des agents contractuels sur le fondement des articles L332-14 et L332-8 du Code général de la fonction publique. Considérant l'arrêt des dispositifs de contrats aidés et le besoin de garantir un encadrement suffisant pour le service scolaire, périscolaire et restauration collective, le maire propose à l'Assemblée la création, on a pas mis de date à compter de la délibération d'un emploi permanent.
De demain.
D'un emploi permanent d'aide maternelle agent polyvalent périscolaire avec le grade d'adjoint technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 17h55. Ce temps de travail est annualisé. Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. L'agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes. Accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Assister l'enseignant dans la préparation et ou l'animation des activités pédagogiques. Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Aménager et entretenir les locaux et matériels destinés aux enfants. Participer au fonctionnement de la cantine dans le respect des normes HACCP, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. assurer la surveillance, l'accompagnement et l'animation des enfants durant le temps périscolaire. S'inscrire dans le projet éducatif de la commune et participer à la dynamique pédagogique du service scolaire et périscolaire et de la restauration collective. La rémunération et le déroulement de la carrière correspondent au cadre d'emploi concerné. Toutefois, et par dérogation au principe énoncé à l'article L311-1 du Code général de la fonction publique, cet emploi est susceptible d'être pourvu par un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article L332-8 6e du Code général de la fonction publique pour les emplois des communes de moins de 2000 habitants et des regroupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement, de périmètre ou de suppression d'un service public. Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d'une durée maximale de 3 ans. Il pourra être renouvelé par reconduction express dans la limite d'une durée maximale de 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l'agent ne pourra être conduit que par décision express et pour une durée indéterminée. L'agent contractuel devra justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine des services aux personnes, de l'animation ou de l'accueil des jeunes enfants, ainsi que d'un diplôme professionnel dans ces mêmes domaines. Sa rémunération sera fixée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Le recrutement de l'agent contractuel sera prononcé à l'issue d'une procédure prévue par les décrets numéro 2019-1414 du 19 décembre 2019 et numéro 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Sur proposition du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'adoption de ladite proposition, la modification du tableau des effectifs et précise que les crédits nécessaires sont disponibles au budget 2026. Précise que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon par voie postale ou par voie dématérialisée sur le site télérecours.fr dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Charge son maire de réaliser toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc les normes
Hazard, Alanzis, Critical Control Point, c'est une méthode créée pour détecter l'ensemble des dangers susceptibles d'apparaître pendant le stockage, la préparation ou la présentation des aliments.
Merci. En fait, le fond est simple. Donc je ne sais pas si vous avez des questions.
Alors,
C'est le fonctionnement des. Il faut créer le poste pour qu'on puisse embaucher quelqu'un, et ensuite on supprime des postes. Enfin, c'est le fonctionnement administratif de.
Vous allez rentrer quelqu'un pour sortir quelqu'un d'autre.
Non, on sort personne, mais par exemple, pour pouvoir embaucher quelqu'un. Il faut avoir fait la création du poste, mais c'est pas pour autant que.
Pourquoi créer le poste ? Parce qu'on a aujourd'hui un besoin croissant à la cantine. Hein. On est passé de 80 enfants à 100 enfants au repas de midi. On a un besoin croissant de pérenniser ce poste-là. Jusqu'à maintenant, il était occupé, mais il y avait
un contrat. Pas sous cette forme-là.
Pas sous cette forme-là. Donc là, on crée un poste. Donc je précise que le conseil municipal crée le poste et que le maire derrière nomme la personne qui occupera le poste. Donc c'est pour cette nécessité de besoins croissants à la cantine que l'on a besoin. Comment ?
C'est surtout pour la cantine, parce que comme vous parliez en classe, mais il y a déjà des assises.
Non, mais c'est principalement à la cantine.
C'est le type de poste qui ouvre la possibilité d'intervenir aussi à l'école.
Donc aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'intervenants, donc on a besoin.
Non, mais il y a des.
Et pour le moment, la personne est en place, mais elle n'est pas sur un poste officiel. Donc on crée le poste pour pérenniser le poste.
Voilà. Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité.
Merci. Julien, c'est à toi pour la prochaine délibération.
Donc, c'est la délibération 2026-40 qui concerne le règlement intérieur de la piscine, approbation de la modification apportée au règlement intérieur de la piscine. Alors merci, hein, c'est un bizutage, c'est ma première délibération. Elle est très longue, voilà. Je vais toute la lire. Si on modifie le règlement intérieur de la piscine, c'est parce qu'on n'a plus le droit de fumer dedans. Donc on modifie le règlement pour autoriser les gens, avant toute sortie était définitive, et maintenant les gens pourront, moyennant un tampon, sortir fumer à 10 mètres de la piscine et re-rentrer avec le tampon. Voilà, c'est pour ça que je vous relis tout ça. Mais c'est très intéressant, la piscine, c'est une chance, il faut venir. Voilà. Tout ça pour une clope. Bah, c'est possible. Vous pouvez aller fumer une clope en attendant.
Non, vu comme on ne peut plus fumer sur l'espace public. Mais voilà.
Allez.
Non, mais tu ne lis pas tout le règlement. Enfin, je sais
non.
pas.
Moins
que, oui, c'est ce que je voulais dire.
Non, enfin, je lis juste la phrase qui fait.
Si vous voulez.
Après, si t'es frustré, Julien.
Julien, encore. Non. Bon, c'est juste alors. C'est seulement l'article 4 donc, concerné pour les usagers. Toute sortie est définitive, sauf sortie autorisée par les lois et décrets en vigueur. Voilà, donc c'est juste cette ligne-là qui change. Avant, toute sortie était définitive, point barre. Voilà.
Est-ce que le tampon est waterproof ?
Il est, à mon avis, écologique. Voilà. Non, mais est-ce que vous avez des questions? je ne sais pas, à mon avis, oui, parce qu'en général, les deux se suivent. Hein, en général, il n'y a pas une loi pour l'un et pour l'autre, mais peut-être que si.
Je crois que sur l'espace public, en fait, c'est considéré comme. En fait, c'est cigarette et vapoteuse. En fait, c'est partout. Il y a une forme de tolérance de fait, mais dans la loi, la vapoteuse et la cigarette, c'est considéré. Tu ne peux pas fumer dans l'espace public. Quelqu'un qui dans un restaurant vapote, c'est pas légal.
Mais est-ce que vous ne le préciseriez pas?
Ça vient de préciser.
Ça peut être précisé.
Parce que sinon, vous allez avoir. Forcément, maintenant, il y a de moins en moins de gens qui fument la cigarette, mais plus de gens qui fument la vapoteuse. Obligatoirement, il va peut-être y avoir une question de quelqu'un qui va dire mais moi, je fume une puff, je ne vais pas me mettre à 10 mètres de la piscine pour fumer ma puff. Non, mais c'est
absolument... Il y a une signalétique en général qui est adaptée au tabac et pas aux vapoteuses. Je ne sais pas, même pas si elle existe.
Il faudra
peut-être moins mettre les deux.
Julien, je te propose de lire la délibération, s'il te plaît, et de la mettre au point.
Merci. Alors, c'est où qu'il faut lire, là?
La suite de la délibe.
Hein?
Le texte de délibération.
Eh bien, c'est approbation de la modification apportée au règlement intérieur de la piscine municipale. Donc, je soumets au vote. Ah, mais tout? Ah, mais il faut que je fasse tout. Le maire propose d'adopter le nouveau règlement intérieur de la piscine municipale pour se mettre en conformité du décret numéro 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac. Sur proposition du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le nouveau règlement intérieur de la piscine municipale ci annexé, donne pouvoir au maire pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité.
Merci, Julien.
C'est fait.
Examen réussi.
Pas mal.
Allez, dernière délibération, c'est Michel Prévost qui va donc la développer.
Alors, délibération 2026-41. Objet attribution de subvention à l'Association des jeunes agriculteurs et à l'école primaire publique. Le maire expose au conseil municipal les demandes de subvention présentées par les jeunes agriculteurs Ron Coiron et par le directeur de l'école primaire publique. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'attribuer une subvention d'un montant de 200 euros aux jeunes agriculteurs Ron Coiron pour l'organisation de la fête de la vigne du 21 mars 2026, décide d'attribuer une subvention de 223 euros maximum à l'école primaire publique pour la participation des élèves à l'art des choises des jeunes 2026. La subvention sera versée à la coopérative scolaire au vu de l'état des effectifs présentés par le directeur. Charge son maire de verser aux associations les subventions ci-dessus. Précise que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2026, chapitre 65, article 65-748. Donne pouvoir au maire pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions ?
Oui, je veux dire quelque chose. Pour les enfants, le 123, c'est même pas assez. C'est les amis et 222 agriculteurs.
Après, bon, c'est en fonction aussi des crédits disponibles. Et concernant les enfants, je précise que l'art des choses des jeunes, jusqu'à maintenant, c'était gratuit. Et l'inscription, maintenant, est payante. Et du coup, voilà, pour éviter que ce soit les parents qui financent la totalité.
C'est mon avis. C'est le copain agriculteur, 200 euros.
Mais si ça se trouve, c'est ce qu'ils ont demandé. Donc,
C'est
ce qu'ils ont demandé, mais bon. C'est pour un événement bien particulier.
Il y a d'autres questions ?
Comment ça a été décidé pour l'école, la part de la répartition ?
C'est au nombre d'enfants. C'est selon le nombre d'enfants.
C'est pour ça qu'on met maximum, parce que
c'est le
nombre de participants, de jeunes participants, donc avec une participation communale de 3 euros, et les accompagnants qui sont évalués au nombre de 10 payent également une inscription qui est de 10 euros. Les accompagnants étant des bénévoles, ça nous paraissait.
S'il vous plaît.
Est-ce qu'il a été envisagé de rien faire payer aux familles ou...
Non, il y a une participation des familles.
C'est bien ce qui me questionne.
C'est le directeur qui a décidé comme ça.
C'est le directeur qui a décidé comme ça.
Tout à fait. Élodie ?
Non, mais je dis des fois, c'est vrai que comme je compte faire comprendre aux familles que malheureusement ça a dû changer, là, de décider au directeur de partager la somme.
Tout à fait.
Une subvention de la mairie. Et quand je fais tout gratuit, souvent après, c'est moins drôle des choses.
Ouais, après, je trouve que c'est quand même dommage que les parents soient obligés, doivent en plus payer pour. Déjà que c'est compliqué de motiver les enfants et les familles pour participer à cet événement.
Bon.
Alors, est-ce que le fait que je sois accompagnante à l'art des choses fait que j'ai eu un conflit d'intérêts, monsieur le maire ? Étant et parent d'élève et accompagnante,
bonne question.
Je peux m'abstenir.
Tu peux t'abstenir. Pierre, tu avais une question ?
Oui, on a projeté d'écrire à l'art des choses, à l'organisation de l'art des choses, parce qu'on est allé à la réunion d'information sur l'art des choses 2026 jusqu'à Joyeux. été fait mention du fait que la chose des jeunes devient pénible. Donc on va leur faire un courrier pour toi en disant c'est quand même étonnant qu'on n'ait pas eu l'info. Et d'autant que c'était le moment important, c'était le débat du budget. Enfin, voilà, il y a des conditions pour voir s'ils peuvent faire quelque chose quoi, cette année.
Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on va soumettre cette délibération au vote.
Je salue quand même l'initiative de Thierry Robin qui emmène les jeunes toutes les années. Franchement, emmener 40 jeunes sur les routes, c'est une sacrée responsabilité. Il le fait toutes les années. Et je salue cette initiative qui est quand même à souligner. Voilà. Juste
c'est
préciser
ça.
Il a fait deux fois cette année.
Et il a fait deux sorties cette année, sachant qu'il emmène plusieurs demi-journées les enfants pour s'entraîner en vue de l'art des choses. Donc voilà, c'est, je pense, une belle initiative et j'espère qu'elle continuera. Et j'espère que les remontées des communes, qu'on ne sera pas les seuls à faire remonter cette histoire de participation financière.
Je pense que Alba est la seule commune qui engage deux classes de l'école élémentaire.
Tout à fait.
Alors, non, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres.
C'est votre dernier mot. Donc, on va passer au vote de cette dernière délibération. Donc, qui s'abstient? Une abstention. Qui vote contre? Adopté à la majorité. Merci.
On arrive à l'ordre, à la fin de l'ordre du jour. Je me dois de vous faire un compte-rendu des décisions donc, que j'ai prises dans le cadre des délégations que vous m'avez accordées. Donc, vu l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, vu la délégation accordée à M. le maire par délibération numéro 2026-22 du Conseil municipal d'Alba-la-Romaine, en date du 9 avril 2026, considérant l'obligation de présenter au Conseil municipal les décisions prises par M. le maire en vertu de cette délégation, je vous informe que le Conseil municipal des décisions qu'il a prises dans le cadre de cette délégation. Le Conseil municipal prend note des décisions suivantes prises par le maire depuis la dernière réunion du Conseil municipal. Décision numéro 1 du 9 avril 2026 portant sur une décision modificative budgétaire dans le cadre de la fongibilité des crédits sur le budget principal autorisant le maire à procéder à des virements de crédit. Délibération 2026-09 du 5 mars 2026 approuvant le budget primitif 2026 pour les motifs suivants. Considérant que les crédits prévus au chapitre 20 immobilisation corporelle en investissement sont insuffisantes, qu'il convient d'annuler des titres sur exercice antérieur pour le périscolaire et qu'il n'y a pas de crédit prévu à cet effet sur le BP 2026, chapitre 67. Le maire est autorisé à procéder au virement de crédit suivant. Chapitre 67, titre annulé sur l'exercice antérieur, plus 500 euros. Sur le chapitre 11, autre honoraire conseil, moins 500 euros. Pour essayer d'être plus clair, on a depuis quelques mois un portail qui s'appelle Cantine de France qui permet d'une part d'inscrire les enfants en ligne pour les repas du midi et d'autre part de les inscrire en ligne pour le périscolaire du matin et du soir. Comme c'est le même portail mais que l'un est pris en charge par la communauté de communes, c'est-à-dire la cantine, et l'autre pris en charge par la commune pour le périscolaire, un parent s'est trompé, il a réservé, il a mis une avance sur le portail du périscolaire au lieu de mettre sur le portail de la cantine. Et l'administration française étant ainsi faite et la comptabilité compliquée, si on ne fait pas cette manipulation, on ne peut pas lui rembourser ce qu'il a mis par erreur sur le portail cantine, sur le portail périscolaire au lieu de le mettre sur le portail cantine. Donc on est obligé de faire cette manipulation pour qu'on puisse rembourser ce monsieur. Concernant la deuxième modification, donc ça concerne l'investissement et les dépenses. Donc frais de réalisation de documents d'urbanisme, donc un crédit de 1000 euros, et donc on prend sur le chapitre 21, autre agencement 1000 euros, et ça c'est pour une facture supplémentaire que l'on a été obligé de prendre dans le cadre de la modification numéro 4 du PLU qui a été approuvée le 5 mars 2026. Voilà, on avait un devis de base avec un certain montant. Compte tenu un peu de la complexité de certains sujets, on a dû faire une réunion supplémentaire et donc le cabinet d'urbaniste qui nous a accompagnés nous a facturé cette prestation supplémentaire qui est tout à fait justifiée. Donc voilà pourquoi on fait ces modifications au niveau du budget. Concernant la décision numéro 2 du 10 avril 2026, portant sur la réalisation de travaux d'aménagement de la cour d'école de maternelle par l'entreprise Comte Travaux Publics, basée à Valvinière, pour un montant de 6 858,60 € TTC. Donc vous avez vu que pendant les vacances de Pâques, la cour avait changé d'aspect et donc c'est une entreprise locale qui a fait ces travaux. La décision numéro 3 du 13 avril 2026, qui concerne exactement la même chose, hein, l'aménagement de la cour d'école de maternelle, et cette fois-ci le scellement d'un toboggan. Là, on a fait appel à l'entreprise Bâtir Durable de Saint-Thomé pour un montant de 1 428 € TTC. Décision numéro 4 du 21 avril 2026 portant sur l'achat de matériaux pour la végétalisation de la cour d'école de maternelle auprès du fournisseur Racine, donc dans la banlieue lyonnaise, à Vaux-en-Velin exactement, pour un montant de 2 334 € TTC, précisément. Pardon ? Non, là, alors c'est les copeaux de bois, c'est les copeaux de bois qu'on met autour du toboggan, justement, pour créer la zone d'amortissement. Et il faut que ça soit homologué. Et il y a des fournisseurs, il n'y en a pas de partout. Donc on travaille depuis 3 ans avec ce fournisseur, on n'a pas trouvé plus proche. Décision numéro 5 du 24 avril 2026 portant sur l'acquisition de jeux extérieurs, filets et pare-ballon pour l'aménagement du plateau sportif et de l'aire de jeu du périscolaire. Donc auprès du fournisseur Meffrand Collectivité, donc à Florensac dans le 34. Pour un montant de 5 496 € TTC. Donc là, pareil, sur le plateau sportif, on a besoin de refaire certains grillages, de mettre des filets par ballon, parce que cette aire de jeu, depuis qu'elle est réaménagée, sert énormément. Et les coups de ballon, les grillages n'aiment pas trop les coups de ballon, donc on va mettre plutôt des filets par ballon. Et puis on a également commander un toboggan pour mettre dans l'aire d'accueil du périscolaire, puisqu'on avait été obligé de l'enlever suite à une visite d'un service de contrôle qui nous a conseillé de l'enlever compte tenu des dangers qu'il pouvait représenter. Enfin, dans la décision numéro 6, la renonciation de l'exercice de droit de préemption urbain sur plusieurs immeubles. Donc une DIA du 10 avril 2026 présentée par Maître Massenet Florian pour un immeuble sur la parcelle D809. Voilà. Nous sommes arrivés au bout de l'ordre du jour. Chers collègues, avez-vous des questions ? Très bien. Si vous n'avez pas de questions, je propose d'arrêter, de clôturer ce conseil municipal. Est-ce que dans le public, vous avez des questions ?